Anne Giudicelli, qui est spécialiste du monde arabo-musulman. Elle est fondatrice de l'agence Terrorisque sur les risques politico-sécuritaires. Bonjour Anne Giudicelli.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être à l'antenne de France Inter. L'attaque au couteau hier soir dans les rues de Paris a fait un mort et quatre blessés. L'assaillant a été abattu par la police. L'acte est revendiqué par le groupe État islamique. L'identité de l'assaillant d'une vingtaine d'années, un russe de Tchétchénie, sans antécédent judiciaire. Qu'est-ce que ça peut renseigner de ses motivations ?
Bon, écoutez, si ça renvoie effectivement à une origine tchétchène, on sait très bien que ce sont des ressortissants qui sont très souvent impliqués dans des filières, alors à la fois sur les terrains, les fronts de guerre, si vous voulez, et puis également dans les opérations extérieures, j'ai envie de dire, c'est-à-dire à Boston, par exemple, où c'était effectivement deux frères tchétchènes, ou sur d'autres, dans d'autres cas de figure, y compris donc ici. Ça veut dire que y a une certaine logique, hein, puisque ça a été revendiqué par l'État islamique. Qu'on a un profil, je dirais, assez commun dans ce type d'action. Donc on est dans la répétition, si vous voulez, d'une série d'actions dont on a déjà, dont on est déjà, entre guillemets, familier.
Hein. Attaque au couteau, au hasard des rencontres dans la rue, est-ce un mode d'opératoire bien identifié là aussi ?
Oui, enfin, on ne va pas innover en commentant ça aujourd'hui. On sait très bien que ce sont des modes opératoires largement éprouvés. Hein. Donc, voilà.
La déroute militaire du groupe État islamique en Syrie et en Irak, ça n'a pas pour autant affaibli le risque terroriste en France, hein, il faut le redire.
Voilà, là aussi, ça fait quelques mois que ce constat est déjà fait, si vous voulez. Hein. Donc, on n'a rien de nouveau sur ce front-là, j'ai envie de dire.
Mais depuis cette déroute de Daesh à Mossoul et à Raqqa, comment se sont transformés les réseaux terroristes qui veulent en découdre sur le sol européen ?
Oui, enfin, il n'y a pas que le sol européen. Hein. Il y a eu un redéploiement des éléments qui étaient en Irak et en Syrie vers différentes d'autres zones, si vous voulez, que ce soit la Libye ou en particulier l'Afghanistan, où il y a une reconstitution des réseaux sur place. À partir desquels on refait des camps d'entraînement, on reforme des recrues et on prépare encore donc des actions à l'extérieur, y compris sur le territoire européen.
Cela dit, ce n'est plus un terrorisme de réseau, mais plutôt un terrorisme réactif. C'est ça qui est différent peut-être aujourd'hui par rapport aux années précédentes.
Voilà, enfin en gros, tout ce qui peut être bon pour cette organisation qui rentre dans ses objectifs, eh bien, elle l'intègre, si vous voulez. Hein. Donc, voilà, c'est une évolution donc qui n'est pas nouvelle maintenant. Encore une fois, ça fait quand même deux ans qu'on est dans, un peu plus de deux ans qu'on est déjà, qu'on connaît maintenant cette évolution-là. Donc, encore une fois, le problème, c'est quelle va être la prochaine. Hein. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui et essayer d'anticiper les formes d'évolution et surtout les profils et les modes opératoires. Donc,
mais est-ce qu'on peut encore d'ailleurs parler de réseau terroristes ou est-ce qu'il s'agit surtout d'individus isolés qui se nourrissent de la propagande sur Internet ?
Écoutez, il y a plusieurs, encore une fois, il y a eu des opérations qui n'ont pas été, qui étaient apparemment similaires et qui n'ont pas été revendiquées par l'État islamique. Donc ça veut dire qu'il y en a ce type de cas de figure. On va s'approprier, on va mener une action qui n'est pas reliée à cette mouvance-là. Là, en l'occurrence, ça a été revendiqué. Donc, il y a des liens qui sont pas qui ne sont pas de nature organique mais qui sont d'une autre nature, mais il y a des liens.
Je reviens sur l'origine russe née en Tchétchénie de l'assaillant. La Tchétchénie de Ramzan Kadyrov, elle est très active aujourd'hui dans la reconstruction de la Syrie. C'est quoi le rôle de la Tchétchénie aujourd'hui ?
Écoutez, moi je vous parlais tout à l'heure des ressortissants tchétchènes ou russophones qui sont très nombreux dans les rangs d'Al-Qaïda comme de l'État islamique. Donc depuis toujours, ils sont même considérés d'ailleurs comme des combattants particulièrement forts. Ensuite, l'État lui-même, l'État tchétchène, est un, je dirais, travaille aux côtés de la Russie. Donc, en gros, la politique russe officielle dans le pays, on la connaît, mais ça n'a rien à voir avec les ressortissants qui rejoignent ou pas, en tout cas ceux qui rejoignent l'État islamique ont des objectifs qui sont similaires à tous les éléments qui font partie des réseaux de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, encore une fois, sur ces fronts-là.
En France, depuis les attentats de 2015 à Paris, la réponse est essentiellement sécuritaire. Est-ce que les lois antiterroristes, les lois successives, il y en a eu pas mal depuis quelques années, est-ce qu'elles offrent aujourd'hui une réponse adaptée?
On sait très bien que l'empilement de lois auquel on assiste depuis ces dernières années n'a pas résolu l'évolution, en tout cas l'expansion, mais aussi les évolutions de ce type de terrorisme. J'ai envie même de dire que, d'une certaine façon, ces lois ont contribué à faire évoluer la menace d'une façon à la rendre de moins en moins détectable et de plus en plus difficile à arrêter et à anticiper, puisque effectivement les modes opératoires et les profils se sont adaptés à ce dispositif législatif et répressif. Donc on voit bien, ça a conduit par exemple à faire émerger des pratiques du type attaque au couteau, puisque ça c'est typiquement un mode opératoire qui est très compliqué à
anticiper.
Voilà.
Les djihadistes qui rentrent en France, aujourd'hui, ils sont conduits en prison. Est-ce qu'on sait combien ils sont précisément et que deviennent-ils d'ailleurs ?
Oui, il y a des chiffres, pardonnez-moi, je ne les ai plus en tête, mais ils sont connus et faciles à obtenir. Ils sont assumés par nos autorités. La question, c'est surtout ceux qui ont déjà été jugés et qui vont bientôt sortir, c'est-à-dire d'ici... En gros, dans 2 ans, on aura une première, même l'année prochaine d'ailleurs, mais disons, dans 2 ans, on aura une partie de ceux qui ont été jugés au début du conflit syrien et irakien, qui vont sortir après avoir purgé leur peine. Vu qu'aujourd'hui, on a des réflexions qui sont menées, mais la politique de réinsertion de ces individus-là, elle n'est pas encore véritablement établie. Et donc, compte tenu du caractère inédit, finalement, de la situation dans laquelle on se trouve, les réponses n'ont pas encore été apportées par le pays.
Par le pays. Merci beaucoup, Anne Giudicelli, fondatrice de l'agence Terrorisque sur les risques politico-sécuritaires. Merci de ces explications sur France Inter. À suivre dans un instant la revue de presse de Frédéric Pommier, ensuite à 8h40. Question ce matin sur un autre sujet, la protection de nos données numériques. On va en parler avec la députée La République En Marche, Paula Forteza. Vos questions ce matin sur le RGPD et autres protections des données numériques. Vous appelez le 01 45 24 7000. Ce sera à partir du 25 mai prochain. Toutes les entreprises européennes devront se mettre en conformité avec la loi qui garantit la protection de nos données informatique, de nos données personnelles. En France, c'en sera fini de la loi Informatique et Liberté. Elle date de 1978. Le nouveau cadre juridique porte un nom, un sigle RGPD pour Règlement Général de Protection des Données. Et à partir de demain, lundi, l'Assemblée nationale va étudier le texte en deuxième lecture. Bonjour Paula Forteza.
Bonjour.
Vous êtes députée de La République En Marche des Français de l'étranger d'Amérique du Sud. Vous êtes rapporteur de cette loi sur la protection des données numériques. Qu'est-ce qui va changer pour les entreprises en Europe à partir du 25 mai ?
Alors moi, je commencerai par dire qu'est-ce qui va changer pour les utilisateurs, pour les citoyens, parce que ce cadre met en place des nouveaux droits, dont le plus important est le droit au consentement obligatoire, éclairé, des utilisateurs. Les entreprises, et vous devez être en train de recevoir tous des mails, des notifications de la part des plateformes en ce moment, vont devoir recueillir le consentement des utilisateurs avant de lancer tout traitement sur les données personnelles. Et donc, ce consentement doit avoir quelques caractéristiques. Nous voyons que la mise en œuvre n'est pas à la hauteur maintenant parce que nous avons des explications qui restent encore trop techniques, avec un vocabulaire trop juridique. Nous avons des parcours utilisateurs qui mènent les utilisateurs à avoir un accord qui est un clic de lassitude, pas un clic de conviction. Mm-hmm. Et nous avons ce qu'on appelle parfois le chantage au service.
C'est-à-dire, ce sont les agences qui se montent en ce moment pour proposer leurs services.
Non, c'est-à-dire que dans le cadre du consentement, les plateformes ne peuvent pas conditionner l'accès au service par le fait que vous donniez votre consentement pour un traitement des données personnelles.
On va rester un instant sur l'idée générale. Le but, c'est bien de laisser le salarié, le fournisseur ou bien l'abonné à une plateforme d'être au final le seul maître de ses propres données numériques. Chacun de nous doit savoir ce que deviennent ces données numériques. Cette transparence, comment est-ce que je vais pouvoir la vérifier ?
Alors justement, les plateformes devront donner toute l'information nécessaire et les personnes pourront retirer leur consentement à tout moment. Les personnes ne sont pas d'accord parce qu'elles sentent qu'elles n'ont pas assez de choix, qu'elles n'ont pas confiance dans les plateformes, elles pourront changer de service parce que nous avons ce nouveau droit à la portabilité.
On va en parler dans un instant.
Oui. Nous pouvons recueillir nos données et les transférer à notre service.
De quelles données parlons-nous précisément ? Quand on parle de données numériques, ça concerne quel registre ?
Alors, ça peut être toutes les données qui donnent une information sur votre personne, qui aident à tisser un profil. Donc ça peut être des données de géolocalisation, ça peut être vos photos que vous partagez sur des réseaux sociaux, ça peut être toutes les données qui donnent une information sur votre personne.
Vos questions ce matin, 01 45 24 7000, vos questions sur la protection de nos données numériques. On va au standard de France Inter avec Jean-Claude qui est en ligne. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour à tous et merci pour vos émissions. Alors j'avais une question à poser, c'est que, cette question est dans un certain cadre, c'est-à-dire on nous parle de choses, de la protection de nos données et ça nous intéresse. Mais en réalité, les enjeux derrière, c'est que les données soient stockées et exploitées en Europe, en France ou aux États-Unis. Actuellement, c'est les États-Unis, donc c'est un très gros marché. Et on peut imaginer que derrière, il y a des entreprises européennes qui s'agitent pour essayer de récupérer ça. Ça, on ne nous en parle pas, il faudrait en parler. Et c'est pour ça que je viens au deuxième point, c'est-à-dire ce qui est réellement la protection des données individuelles et non pas l'intérêt de différentes majors. Dans ce cadre-là, je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas une impulsion plus grande, parce qu'elle est pratiquement nulle actuellement, donnée aux logiciels libres. Logiciels libres, ce que les gens voient quand ils le téléchargent, c'est que c'est gratuit. Donc c'est par exemple Firefox pour les navigateurs, LibreOffice pour traitement de texte, tableur. C'est pas le seul aspect, ça s'appelle libre parce qu'on peut accéder au code. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des logiciels américains, et ce qui est encore moins le cas évidemment pour Google, etc. Alors il y a quand même un enjeu derrière, c'est que actuellement et de façon constante, il y a des partenariats, notamment entre l'éducation nationale, les ministères. C'est une société américaine, par exemple, qui va gérer les données du ministère de l'Intérieur. Du renseignement, je crois, oui, c'est tout à fait étonnant, mais c'est comme ça. Et par contre, il y aurait la possibilité de développer un logiciel libre, je dirais, à la française, parce qu'on peut accéder au code, on peut le modifier, et c'est certain que le pays, alors encore une fois, libre, on dit gratuit, mais il y a un aspect, un enjeu commercial presque, c'est autour vous développez des services, de la production, du code, et ça peut se commercialiser, et évidemment, beaucoup de pays dans le monde seraient intéressés.
Jean-Claude, on va laisser l'invité vous répondre avec pas mal d'aspects. Oui, absolument, très intéressant, pas mal d'aspects dans votre question. D'abord, l'un des aspects de la question de Jean-Claude, c'est de dire que dans les faits, certaines entreprises ont monnayé les données numériques en France et aux États-Unis, un peu partout dans le monde, sans le consentement des abonnés. Ça, avec le RGPD, ce ne sera plus possible.
Ce ne sera plus possible. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est l'extraterritorialité de ce règlement. C'est-à-dire que des entreprises qui sont basées aux États-Unis, si elles traitent des données personnelles de ressortissants européens, devront se conformer au règlement de toute façon. Donc, par ricochet, on augmente le niveau de protection au niveau international.
Et puis, l'autre aspect de la question de Jean-Claude, c'est de pouvoir partir avec nos propres données numériques. Ça peut s'appliquer déjà à la téléphonie mobile, exactement également dans le secteur bancaire, je crois. endroit. Est-ce qu'on pourra aussi quitter un réseau social qui gazouille pour aller migrer avec nos données sur un autre réseau qu'on estime plus protecteur? Jean-Claude parlait de logiciels libres.
Exactement. Je trouve que le logiciel libre est très important, est un mouvement qui est fort en France depuis longtemps et qu'il faudra accompagner et soutenir.
Mais nous pouvons, par exemple, que peut faire l'État là-dessus?
L'État peut soutenir avec des financements, avec de l'accompagnement, mais je crois que c'est aussi aux utilisateurs de choisir ces services pour pouvoir, pour qu'ils puissent avoir plus de poids. Par exemple, on pourra choisir d'utiliser, au lieu de Twitter, Mastodon, qui est un réseau social décentralisé et libre. On pourra utiliser, au lieu de YouTube, Framatube, qui est aussi un service libre. Donc c'est aux utilisateurs de choisir ces services plus protecteurs et plus éthique.
Mais ça veut dire que le réseau initial qui gazouille, lui, va effacer nos données. Il ne pourra plus utiliser nos données. Quelle certitude aurons-nous de ça?
Alors, la certitude que la CNIL pourra après venir enquêter.
La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté.
Exactement, qui est l'organisme régulateur de la protection des données personnelles et pourra poser des amendes financières de jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de ces entreprises, du chiffre d'affaires mondial.
Alors, ces sanctions, effectivement, 4% du chiffre d'affaires, ça peut en dissuader quelques-uns. Pour les entreprises qui ne respectent pas les nouvelles règles, ça passera... ma question est de savoir si ces sanctions seront dissuasives parce que on a entendu la quadrature du net qui laisse entendre que la CNIL, cette commission de régulation, pourrait être un peu conciliante, notamment au début. Ça va être le cas?
Je crois qu'elle sera plus conciliante pour les petits, pour les petites et moyennes entreprises, pour les collectivités territoriales qui auront du mal à mettre en œuvre ce règlement. Pas pour les grandes entreprises qu'on dénomine parfois les GAFA qui ont vu venir ce règlement depuis longtemps et ont les moyens, les ressources humaines, juridiques pour se préparer.
Parce que vous faites bien d'insister là-dessus, c'est plus facile pour les grandes entreprises qui depuis quelques années déjà transforment déjà cette passation à la RGAPP, ce règlement européen. Pour les petits patrons, c'est un calvaire.
Ça sera difficile, mais il y a tout un tas d'outils justement qui sont en train d'être mis en place par la CNIL pour accompagner ces entreprises. Sur l'action de la quadrature du net, c'est très intéressant parce que ils lancent ce qu'on appelle les actions de groupe, oui, qui ont aussi été mis en place par le RGPD et qui sont cette façon de poser plainte collectivement à travers une association pour défendre ses droits.
Vos questions ce matin à la députée La République En Marche, Paula Forteza. Vos protections, la protection de vos données numériques, vous nous appelez. On retourne au standard avec une question de Christian. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Christian Bachet, j'habite Marcy en Villette, un village au sud d'Orléans.
Bienvenue.
Voilà, j'avais envoyé une lettre à mon député Claude Deganet, donc un collègue de Madame Forteza. Et je faisais deux observations. Alors, vous avez des centaines, si ce n'est des milliers de formulaires. En bas du formulaire, juste avant la signature, vous avez une toute petite case, et c'est écrit en tout petit. Prenez par exemple, si vous faites un virement, si vous avez un compte à la banque postale, et cette petite case, il est marqué, si on doit la cocher, « Je m'oppose à l'utilisation de mes données personnelles à des fins commerciales ». Si vous oubliez de cocher cette case, ne serait-ce qu'une fois, boum, vous êtes fiché, terminado. Et il faudrait inverser en fait le processus et mettre une case, cocher une case dans laquelle il sera indiqué « J'autorise l'utilisation de mes données personnelles à des fins commerciales ».
On va poser la question. On va procéder point par point. Précision dans le nouveau règlement général de protection des données, ça existe?
Oui, donc ça s'appelle Privacy by Design. C'est un nouveau concept qui a été introduit par ce règlement. Et c'est-à-dire que toutes les cases précochées devront être les plus protectrices des données personnelles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour toutes les entreprises et il faudra être très vigilant là-dessus.
On a vu aussi...
C'est-à-dire que la personne devra avoir un acte volontaire pour décider de partager ses données.
On a vu dans l'actualité récente que nos données personnelles numériques, elles pouvaient aussi influencer des élections en Russie, aux États-Unis. Est-ce que ce nouveau règlement européen sera à la hauteur en Europe pour prévenir ce type de dérive?
Donc justement, on ne pourra pas avoir le cas de Cambridge Analytica et Facebook sous le cadre du règlement européen sans le consentement des personnes. Donc ça sera vraiment aux personnes de décider si elles donnent accès à ces données pour ce type de traitement, de ciblage publicitaire, de manipulation autour de données personnelles de tout type.
Un mot aussi, on fait le tour d'horizon hein, des différentes mesures. Ce règlement européen sur les protections des données personnelles, ça va également garantir la protection des mineurs sur Internet. Et mineurs sur Internet, je crois que ça veut dire à partir, enfin, en dessous de 16 ans. Qu'est-ce qui est fait pour eux ?
Alors justement, au-dessous de 16 ans, c'était ce qui avait été mis en place au niveau européen. Nous, à l'Assemblée nationale, on a décidé de redescendre à 15 ans pour une question d'homogénéité par rapport aux autres références, dont la majorité sexuelle, par exemple, en France. C'est-à-dire que les enfants devront avoir l'accord de leurs parents en bas de 15 ans, pour accéder aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux.
Eh bien, merci Paula Forteza, députée de La République En Marche. Demain, le texte arrive en relecture à l'Assemblée, il n'y aura pas de souci, ça va passer.
C'est la lecture définitive, la dernière lecture, et puis après, nous pourrons passer au décret, à la mise en œuvre pratique.
Eh bien, merci et bonne journée.